Merci parce que le Seigneur a beaucoup parlé ce matin et j'aimerais continuer un peu dans le même ordre d'idées. Alors ces deux amis qui se rencontrent, ça fait une semaine qu'il pleut. J'en ai marre de ce temps, j'en ai plein le dos. L'autre lui répond, en plus t'as vu, il n'y a pas arrêté une minute. C'est incroyable, il pleut tous les jours. Mais fort, c'est « j'en peux plus ». Alors les deux continuent, maugré. Et vous en avez deux autres qui se rencontrent. T'as vu le temps qu'il fait? Ça fait une semaine qu'il pleut. L'autre lui répond « mais tu devrais être content. Parce que tu peux voir la pluie. Tu peux sentir la pluie. Il y en a d'autres qui aimeraient bien être à notre place. Et qui peuvent plus. » Dans ces deux situations, il y a deux manières différentes de voir les choses. Ça rejoint exactement ce qui a été dit de tout ce matin. Quelle est notre façon de voir les choses? Et j'ai pris Pierre comme exemple, qui est un exemple magnifique. C'est l'importance de regarder dans la bonne direction et de la bonne manière. En Actes chapitre 10, verset 28, Pierre dit, « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Dieu m'a appris à regarder. » Alors Pierre avait des problèmes de vision. En regardant lui-même, il a été découragé. Quand il avait renié Jésus trois fois, il avait vu ce qu'il avait fait, il a pleuré amèrement sur lui. En regardant au vent, il a coulé, on va le voir par la suite. En regardant aux autres, il a été réprimandé. Quand Jean venait vers Jésus, il lui a dit « Mais que va-t-il advenir de lui ?» Parce que Jean était le bien-aimé de Jésus. Littéralement, Jésus lui a dit, c'est pas ton problème, toi, suis-moi. Le témoignage de Pierre, c'est que Dieu lui avait appris à regarder. Sa manière de regarder les autres était perturbée. Elle était influencée par l'état de son cœur. Et le problème, il est là ce matin. Quel est l'état de notre cœur ? Quand on prend les deux amis, les deux premiers, c'était incroyable. Ils regardaient que la situation, il pleuvait. Ils voyaient tout de façon triste, de façon pénible. C'était difficile, il pleut. Il pleut depuis une semaine. Et dans la deuxième situation, il y en a un des deux qui regardait à Dieu. Ben oui. Si je vois la pluie, c'est que le Seigneur me donne la grâce de voir cette pluie. D'être mouillé par cette pluie. Quand on commence à regarder les circonstances, quand on commence à se regarder soi-même, voilà ce qui arrive. On sombre. Complètement. Et on va le voir dans le récit. Si on prend Matthieu, chapitre 6, verset 22 à 33, on va lire ensemble. Et vous allez voir un peu l'importance pour ceux qui suivent les cours d'Alex le samedi matin, l'importance de la parole. Et pour les autres, bien sûr, également. Matthieu, chapitre 6, verset 22 à 33. « Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. » Verset 24, « La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le vinrent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens, Pierre, viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Vous avez beau lire 10 fois le même passage, moi j'ai lu, j'ai relu, j'ai re-relu, j'ai re-re-re-relu. Et quand j'ai étudié ce texte pour faire cette prédication, il y a une chose qui m'a surpris au départ. Et d'où l'importance de suivre les cours d'Alex. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque. Voilà la réponse à beaucoup de questions qu'on peut se poser sur les épreuves qu'on traverse dans notre vie. Il obligea les disciples à monter dans la barque. Annie, ça faisait 30 ans qu'elle avait connu le Seigneur. Et aujourd'hui, il l'a obligée à traverser cette épreuve. Il y a des gens qui refusent l'Éternel. Et aujourd'hui, l'Éternel les oblige à traverser cette épreuve. Il nous est obligé parfois de traverser certaines situations. Et ce n'est pas parce que on traverse ces situations qu'on n'est pas dans la volonté du Seigneur. Vous comprenez? Ce n'est pas parce qu'on traverse une épreuve qu'on est à l'encontre des plans de Dieu. C'est parce que l'Éternel est obligé de nous faire passer par cette épreuve pour changer notre vision. La vision de nous-mêmes. Notre moi. La première chose, la tempête. C'est l'image, en fin de compte, de ce qu'on peut rencontrer dans nos vies, de toutes les épreuves qu'on peut rencontrer dans nos vies. Le verset 24 nous dit « La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. » Le vent était contraire. Alors on peut penser qu'il peut être contraire à ce que le Seigneur fait. Mais en fin de compte, c'est le fait que le diable peut s'opposer au plan de Dieu dans notre vie. Il peut entretenir ce moi. Il peut entretenir le fait que, non, j'ai pas besoin du Seigneur. Et si on regarde en Éphésiens chapitre 6, verset 12, par exemple, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est souvent ces choses-là qui nous empêchent d'avoir une vision correcte des plans de Dieu dans notre vie. D'avoir une idée correcte de ce que nous sommes dans le monde aujourd'hui. Il y a Éphésiens chapitre 2 qui nous dit autre chose. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, dans l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il y a un esprit ici qui est contraire pas ici dans cette église, mais dans ce monde qui est contraire à la volonté de Dieu. Et l'Éternel veut changer notre vision sur ces choses. Il y a aussi de la chair qui a des désirs contraires à ceux de l'esprit. En Galates 5, 17, on peut le dire. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Et souvent, on fait ce qu'on veut, parce que notre vision est tronquée, justement, par l'esprit du monde. Par l'esprit qui nous dit que ben, je suis chrétien, tout va bien. Je suis sous la grâce. Et ce qui fait que pendant des années, on va trimballer des casseroles. On va voir par la suite ce qui est arrivé à Pierre. Parce qu'on oublie de garder les yeux fixés sur Jésus. Où est notre regard à ce moment-là? Il y a aussi des hommes sans Dieu qui peuvent aussi s'opposer à la volonté de Dieu dans notre vie. On voit le cas en Actes 7, 54. Il grinçait des dents contre Étienne quand vous annoncez la parole de Dieu. Vous avez des gens qui vont grincer des dents parce que vous dérangez l'esprit du monde, parce que vous vous opposez à la vision qu'ils ont du monde et de Dieu dans ce monde. La question, c'est quelle vision moi je donne de Dieu dans ce monde? Quel regard les gens portent sur moi dans ce monde? On va le voir plus tard, une fois que Pierre a été transformé, les regards que portaient les gens sur Pierre. L'intervention de Jésus. À la quatrième heure, ça vous fait 3 heures du matin. Il y a des gens qui pensent que on prie, Annie l'a dit tout à l'heure, on prie, crac, on met 1 euro, on tire le tiroir, crac, on a la réussite. Jésus attend parfois et souvent d'éprouver notre foi. Dans ces circonstances difficiles, il attend. Il nous regarde. Il regarde comment nos regards vont être fixés, sur qui ils vont être fixés. On l'a vu et on va le voir par la suite avec Pierre. Et ce qui est magnifique, bien sûr, c'est que Jésus alla vers eux. Et quand on regarde 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13, il est dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez le supporter. » Avec l'épreuve. C'est ça que vous allez voir. On a parlé mardi soir des scories, du fait que si vous voulez purifier un métal, il faut le faire chauffer à une force incroyable. Et à ce moment-là, toutes les impuretés vont remonter. Il suffit de racler et toutes les impuretés s'en vont. C'est ça les épreuves dans nos vies. Et parfois, le Seigneur est obligé de nous faire passer par ces épreuves. Parce qu'il a besoin de chauffer notre vie à blanc pour que tout ce qui ne lui appartient pas remonte à la surface et qu'il puisse les balayer afin qu'on soit pur. Parce que j'espère que vous savez que nous purifier nous-mêmes est impossible. On est purifié et lavé par le sang de Jésus-Christ. Et quand je dis purifié et lavé, Ça ne consiste pas simplement à dire, Seigneur, oui, je crois en toi. Je crois en celui qui est mort sur la croix et qui est ressuscité. Il n'y a pas que ça dans la vie. Parce que si on dit ça, on peut s'asseoir et rien ne va se passer dans notre vie. Ça veut dire que je m'engage à vivre en nouveauté de vie. Ça dit que je m'engage à exposer ma vie au Seigneur, afin qu'il me chauffe et me purifie, lui seul. De nous-mêmes, on en est incapable. Chassez le naturel et il revient au galop. Essayez, vous allez voir, vous allez tenir une semaine. Si vous avez un péché dans votre vie, essayez. Ça va tenir une semaine, deux semaines. Et au bout de la troisième, ça revient. Si vous donnez ce problème au Seigneur avec tout votre cœur, avec un cœur contrit, il va vous l'enlever. Il y a des gens qui ont été sortis de la drogue. Il y a des gens qui ont été sortis de l'alcool. Il y a des gens qui ont été sortis du sexe par le Seigneur. Parce que le Seigneur a vu au travers de la personne un regard qui était un appel au secours. Seigneur, sauve-moi ! C'est ce que Pierre a dit. Et Jésus est arrivé vers ses disciples en marchant sur les eaux. Souvent, on se demande comment il peut intervenir. Et bien sûr, il intervient de façon miraculeuse. D'une façon où l'homme est incapable d'expliquer pourquoi ça s'est passé et comment ça s'est passé. Là, il vient secourir la barque en marchant sur les eaux. Ça montre bien qu'il peut faire ce qu'aucun homme ne peut faire. Et bien sûr, les disciples ont été troublés, croyaient que c'était un fantôme. Et c'est là encore où il faut se méfier de la façon dont on interprète la main de Dieu dans notre vie. Il faut faire très attention. Est-ce que je reconnais que oui, l'Éternel a agi dans cette situation? Ou est-ce que je dis, ben non, ça s'est passé comme ça, voilà. Du jour au lendemain, je ne le faisais plus, ou tout allait très bien. Vous imaginez, les disciples croyaient que c'était un fantôme. Quand le Seigneur agit dans votre vie, quelle est votre réaction? Est-ce que vous voyez la main de Dieu? La réponse de Jésus, c'est c'est moi, tout simplement. J'imagine qu'il a dû le dire avec une douceur, il n'a pas hurlé, mais regarde bien, c'est moi! Non, il a dit, c'est moi, et rien d'autre. Et on arrive à un moment où ça dépasse la pensée humaine. C'est que la foi va entrer en action. La foi de Pierre va entrer en action. Il lui dit, si c'est toi, en fin de compte, ça signifie, puisque c'est toi, parce qu'il l'a reconnu, Pierre, il l'a regardé avec les yeux de la foi. Il a regardé Jésus avec les yeux de la foi. Est-ce qu'on regarde Jésus ce matin avec les yeux de la foi? Ben oui, il est capable d'intervenir dans ma situation. Est-ce que je regarde Jésus comme ça? Ou est-ce que je dis, j'ai beau prier, il ne fait rien. Ou est-ce qu'il n'est pas capable d'intervenir dans ma situation? Ou je ne suis pas assez bien pour lui? Ça, on l'entend souvent. Mais Pierre lui dit, puisque c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Qu'est-ce qui va se passer? Il va sortir de la barque, il va se noyer. Mais non. Il avait une telle confiance et une telle foi en Jésus-Christ qu'il a marché sur l'eau. Et Le Seigneur est capable d'en faire autant dans nos vies quand on a cette foi-là. Il nous demande simplement d'engager notre foi. Si tu crois vraiment que c'est moi, avance. Avance. Mais Seigneur, c'est trop grand. Je peux pas. C'est impossible. Regarde comment je suis. Regarde mon état. Je t'ai dit, avance. L'Éternel a donné le même ordre à son peuple devant la mer Rouge. Il a dit à son peuple, il a dit à Moïse, dis au peuple d'avancer. La mer ne s'est ouverte qu'au moment où le peuple a commencé à marcher. Si le peuple était resté sur place, la mer ne se serait jamais ouverte. Le peuple a obéi, il a fait un pas. Au moment où il a fait ce pas-là, la mer s'est ouverte. Ce matin, le Seigneur te dit dans ta situation, avance. Avance. C'est un ordre de Jésus. Viens. Il ne lui a pas dit, bon, voilà ce qui va se passer, voilà ceci. Il lui a dit, viens, viens, viens et tu verras. Viens. Et Pierre n'a pas cherché à comprendre. C'était un ordre. Combien de fois le Seigneur a parlé dans nos vies? Combien de fois il nous a dit des choses? Est-ce que je me suis levé? Est-ce que j'ai avancé? Est-ce que vous pensez sincèrement, excuse-moi Annie, que si Annie, il y a 30 ans, elle s'était levée et elle avait avancé, elle aurait connu toutes ces choses? Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain. Romains 10, 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est la parole de Dieu. Ce que j'entends vient de la parole de Dieu. Elle ne vient pas d'un pasteur, elle ne vient pas d'un ancien. Elle vient de la parole de Dieu. Lorsque Jésus te dit « viens », qu'est-ce que tu attends pour te lever? Qu'est-ce que tu attends pour te soumettre? Est-ce qu'il faut encore regimber? Dire, mais non, j'en suis pas capable. Mais non, je suis trop malade. Mais non, je suis pas chrétien. C'est faux. Jésus te dit ce matin, viens. Et Pierre est sorti de la barque. Il a obéi. C'est là maintenant qu'il faut obéir. Quand on a sur son cœur cette pensée de Jésus, quand on sait que Jésus nous parle, c'est à ce moment-là qu'il faut obéir et avoir confiance. Il faut savoir quitter son univers, quitter ses limites, quitter nos habitudes sécurisantes et de dire « Oui Seigneur, aujourd'hui, à partir de maintenant, je vais marcher avec foi ». Pierre a marché sur l'eau parce qu'il était porté par la parole de Christ. Il faut accepter d'avancer, de marcher dans des domaines nouveaux, dans des domaines qu'on ne connaît pas. Le spirituel, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. On va de surprise en surprise. Mais ce sont des surprises qui viennent du ciel. Contrairement à l'esprit du monde. Parce que l'esprit dont je parle maintenant peut changer votre nature. Peut vous changer votre vision. Peut vous sauver. Et c'est maintenant où on va voir l'erreur de Pierre. Le regard dangereux que Pierre a eu, voyant que le vent était fort, il eut peur. Si vous posez la question, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? S'il a simplement regardé aux circonstances de sa vie. Il n'a plus regardé à Jésus-Christ qui était devant lui sur les eaux, il a regardé les circonstances de sa vie. Il a vu que le vent était fort. S'il avait continué à regarder Jésus-Christ, à fixer ses regards sur Jésus, il aurait rejoint Jésus. Il a perdu à un moment donné la confiance qu'il avait en Jésus-Christ parce qu'il a regardé ses circonstances. Est-ce que ce matin, on n'est pas dans cet état-là? Est-ce qu'au lieu de regarder Jésus-Christ, on ne regarde pas les circonstances de nos vies? Et ce qui fait que, ben on coule. On coule. Si vous apprenez quelqu'un à nager, la première chose qu'il faut lui dire, arrête de te débattre dans l'eau, parce que plus tu vas te débattre, plus tu vas couler. Arrête de bouger et tu verras, tu vas flotter. Faites cette expérience-là avec quelqu'un qui veut apprendre à nager, vous allez voir, c'est miraculeux, il va flotter. C'est exactement ce qui s'est passé avec Pierre. Il a commencé à regarder les circonstances autour de lui et il a coulé. Et malheureusement, combien de chrétiens on rencontre dans ce contexte-là, où ils n'ont plus regardé à Jésus-Christ. Ils ont regardé l'épreuve qu'ils traversaient, sans voir que l'épreuve peut-être venait de l'Éternel. Je vais te purifier, mais il faut que tu passes par le feu. Et on regarde les circonstances de notre vie. Et à ce moment-là, Pierre a eu un réflexe. Il a regardé Jésus, il a dit « Sauve-moi !» Mieux vaut crier que de couler. On crie à l'Éternel. Il faut crier à l'Éternel parce qu'il nous entend « Sauve-moi !» Et Jésus, il a regardé Pierre et il a dit « Tu te débrouilles !» Il a regardé Pierre couler. Est-ce qu'il a fait ça? Parce que j'imagine dans le cri de Pierre, il devait y avoir tout le désespoir de sa vie. « Sauve-moi !» S'il te plaît, sauve-moi. Est-ce qu'on a crié ça une fois dans notre vie à l'Éternel? Sauve-moi. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a saisi Pierre. Et il lui a pas dit, ben voilà, je te sauve et terminé. Non. Il a enseigné. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Si nous ne doutons pas quand Christ a parlé, on va voir s'accomplir dans nos vies l'impossible. Si Dieu ce matin met dans votre cœur et sur votre cœur, « Je vais te sauver », vous savez que l'Esprit de Dieu est capable de le faire. Quelle va être notre réaction? La Pierre a douté et il a coulé. C'est dans la confiance, en fin de compte, qu'on peut voir les miracles. Au verset 32, ils montèrent dans la barque et le vent cessa. C'est la parole de Dieu qui le dit. Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ça, c'est lorsqu'on accepte Jésus-Christ, après ce cri, qu'on l'accepte dans notre barque. Et il n'y a que lui dans notre barque. Il n'y a pas notre moi. La tempête va cesser. Instantanément. Il n'a pas dit, Il n'est pas dit la tempête, c'est ça au bout de 3 heures. Ils montèrent dans la barque et la tempête, c'est ça. Est-ce que j'engage ma foi sur ces mots que je lis dans la parole de Dieu? Est-ce que vous savez que ce matin, même quelle que soit la situation que vous traversez, la tempête peut cesser? Mais Pierre a eu d'autres regards. Et il y a souvent les regards qui sont difficiles. Il y a les regards qui se ferment alors qu'ils devraient rester ouverts. On voit ça en Matthieu 26, verset 43. Il revint et les trouva encore endormis, car les yeux étaient appesantis. Est-ce que je m'attends toujours à Jésus ce matin? Ou est-ce que je me suis assoupi dans ma vie de chrétien? Est-ce que je viens toujours avec cette joie, avec ce fait que je viens glorifier le Seigneur? Ou est-ce que mes yeux étaient trop lourds et je me suis endormi? Les yeux de Pierre et des autres disciples se sont fermés. Le regard était éteint alors qu'ils auraient dû être ouverts et voir ce qui avait été annoncé se réaliser. Jésus-Christ, certes, allait souffrir, mais Jésus-Christ allait être livré. Il allait être crucifié, mais il allait aussi ressusciter. Il y a eu aussi les moments en vers Luc 22, 45, après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Là encore, pour les gens qui font les cours le samedi matin, ils vont voir l'importance des mots, endormis de tristesse. C'est la tristesse souvent qui désoriente notre regard. Parce qu'on devient déçu de Dieu. S'il y avait un Dieu, il ne m'arriverait pas toutes ces choses-là. Mais je ne comprends pas pourquoi je crois en Dieu alors qu'il m'arrive ces choses-là. À ce moment-là, quel regard j'ai sur l'Éternel? Souvent, on a ces paroles, on a cette analyse parce que notre cœur n'est pas à l'Éternel. Il est faussé par l'état de notre cœur. Quel est l'état de mon cœur ce matin? Est-ce que je suis amer? Ou est-ce que je suis dans la gloire de l'Éternel? Oui, Seigneur, même s'il m'arrive ça, je te loue. Parce que j'ai l'espérance du retour de Jésus-Christ. Vous avez l'inverse. En Luc chapitre 9, verset 32, Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. C'est la parabole des 10 vierges. Est-ce que ma lampe, je l'entretiens? Est-ce que j'ai accumulé assez d'huile pour garder cette confiance en l'Éternel? C'est la parabole des 10 vierges. Ici, Pierre et ses compagnons, malgré la fatigue, se sont tenus éveillés. Et ils ont vu la gloire. Est-ce que spirituellement, vous vous gardez éveillé pour voir la gloire de l'Éternel dans votre vie? Ou est-ce que vous vous endormez? C'est à ce moment-là qu'il faut garder les regards bien dirigés, bien orientés, bien fixés. Pierre s'est laissé inspirer et il a eu un regard illuminé. En Matthieu 16, verset 17, Jésus, reprenant la parole, lui dit: « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Son regard est allé au-delà du voile. Son regard a vu l'éternité. Il a vu Jésus-Christ. Et c'est ce que l'Éternel veut faire dans vos vies ce matin. Il veut vous faire voir les choses bien plus loin que vos circonstances actuelles. Il veut vous faire voir l'éternité. En Hébreu 10, 20, la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Ce que j'ai expliqué aux personnes qui étaient là le mardi, quand on pense que le voile qui séparait le lieu très haut, très saint, faisait 10 cm d'épais. Vous imaginez? Et lorsque Christ est mort, ce voile s'est déchiré du haut en bas, comme du vulgaire papier. Quand il s'est maintenu éveillé, il a vu le royaume de Dieu. Et là, Jésus parlait de sa transfiguration. Marc, chapitre 9, verset 1, il dit encore, « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Est-ce que vous avez conscience que l'Éternel peut vous montrer le royaume de Dieu dans sa vie, dans votre vie? Et il le fera par son esprit. Mais pour cela, il faut changer notre vision. En 2 Pierre chapitre 1 verset 16, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Comment je vois Jésus-Christ ce matin? Tout tourne autour de la confiance que j'ai en Jésus-Christ. Tout tourne autour de la vision que j'ai de Jésus-Christ. Quand il a été rempli de l'Esprit, il a eu un regard de discernement. Acte 3, verset 4, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous !» Là, il parlait au boiteux. « Regarde-nous !» Le regard du boiteux a croisé celui des apôtres et il les regardait attentivement. Comment les gens nous regardent aujourd'hui? Comment les gens nous regardent aujourd'hui? Est-ce que j'attire les regards? Ou est-ce que je fais fuir? Est-ce que je donne envie de connaître ce Jésus que je proclame? Ou est-ce que je fais fuir? Pierre, en fin de compte, il a vu la foi de ce boiteux et lui a intimé l'ordre de se lever. Et bien sûr, il est resté assis, le boiteux. Ben non. Parce que dans les yeux de Pierre, il voyait déjà ce boiteux marchant. Est-ce qu'on entrevoit spirituellement dans nos vies l'après? L'après-intervention de l'Éternel. Ça veut dire qu'il faut dépasser le voile de nos circonstances. Il faut dépasser tout ce qui nous empêche de voir au-delà de la montagne qui est devant nous aujourd'hui. Et de dire, oui, demain je serai guéri, parce que l'Éternel l'a dit. Parce que j'ai confiance en la puissance de ces mots qui dit « viens ». Et malgré cela, il a continué à jeter un regard modeste. Acte 3, 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Homme israélite, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi vous étonnez de ce miracle? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme. C'est par la grâce de Dieu. C'est par la puissance de Dieu. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est l'Éternel qui a fait ce miracle. Je vais passer tout ça pour en arriver, en fin de compte. Pierre a dû jeter sur lui un regard pour voir ses faiblesses, pour voir à quel point il était pauvre en esprit. Rappelez-vous, il avait dit à Jésus, « Je te suivrai partout, partout tu iras. » Jésus lui avait dit, « Mais attends, je t'arrête. Avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. » Vous imaginez l'amertume de Pierre quand il a réalisé ces choses. Vous imaginez l'amertume de Dieu, bien que je suis persuadé que Dieu n'a pas d'amertume. Mais je dirais presque la tristesse lorsqu'il nous entend dire dans nos vies tous les jours, « Mais je sais que Dieu est ne peut pas intervenir dans cette situation. Dieu ne peut pas me sauver. Même si j'ai commis les plus grands méfaits, il ne peut pas me sauver. Je suis sale, je ne suis pas bien. » Dieu se lève dans ta barque et te dit, « Suis-moi. » Quelle va être ta réaction ? Il faut garder les yeux fixés sur Jésus-Christ. Dans la course de la foi, il faut toujours garder les yeux fixés sur Jésus. Si on détourne ses yeux de Jésus, il va arriver la même chose que Pierre, on va couler. C'est sûr que Jésus va intervenir, on le voit, il est intervenu. Mais il a dit à Pierre, « Mais pourquoi tu as douté ? Je ne comprends pas. Pourquoi tu as douté ?» On a lu et relu la crucifixion de Jésus-Christ. Mais est-ce qu'on a oublié qu'à la fin de la crucifixion, il est ressuscité? Ça veut dire qu'aujourd'hui, mes bien-aimés, il est capable d'agir dans vos vies. Et si ce matin, sur ton cœur, tu sais qu'il t'a dit « Viens », alors moi je te dis une chose, lève-toi et avance. N'aie plus ce regard que tu as eu pendant des années, un regard de doute, un regard de « c'est pas pour moi », un regard de « on est en 2018, Dieu maintenant », un regard de « ah ben s'il y avait un Dieu, il se passerait pas tout ce qui se passe actuellement ». Lève-toi dans ta barque et obéis. Et tu vas voir les merveilles de Dieu dans ta vie. Quand tu vas couler, il va venir. Il va te sortir. Ce matin, l'Éternel veut élever. Il ne veut pas appesantir. Parce qu'il y en a ici qui sont appesantis par les circonstances de leur vie. Le Seigneur va tirer le geste, vous voyez, il va tirer. Et quand je dis tirer, ça veut dire qu'il va élever. Il va vous faire sortir de vos fosses, il va vous faire sortir de vos citernes pour vous amener dans son royaume. À une seule condition, c'est comment tu le regardes ce matin. Est-ce que tu le regardes avec un regard de foi, en sachant qu'il est capable d'agir, en sachant que aujourd'hui ce qui est dans ma vie ne sera plus là demain? Est-ce que tu as cette conviction ce matin? Si tu as cette conviction, lève-toi et avance. Parce que l'Éternel est là pour te sortir des fondements dans lesquels tu t'es mis. Il en a la puissance. Et il le fera. Sois-en assuré. Amen. Merci Seigneur, parce que tu aimes chacun d'entre nous. Seigneur, tu n'es pas là à jeter des regards de jugement. Tu n'es pas là à critiquer notre condition actuelle. Mais tu es là pour dire viens, viens vers moi, marche. Quelles que soient les circonstances de ta vie, avance. Seigneur, tu vas faire des miracles. Seigneur, ce que nous sommes aujourd'hui, nous ne serons plus demain. Parce que tu auras fait de nous des nouvelles créatures. Selon ton esprit et pas selon l'esprit du monde. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous ici, que l'on puisse garder les yeux fixés sur toi. Ne jamais te perdre du regard, afin de bénéficier de toutes les promesses, de toutes les rétributions qui sont dans ta parole. Parce que tu es l'Éternel et tu ne prévaux pas sur ce que tu as dit. Seigneur, merci, parce que ce matin, tu veux agir dans le nom de Jésus. Amen.